Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de faire du poney.
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Comprendre la fin de vie et les soins palliatifs, le docteur Gomas répond à nos questions. Il était l'invité de l'association de soutien aux soins palliatifs de Bourg-en-Bresse.
Comment faire le deuil de nos amis les bêtes? Reportage au funérarium pour animaux de Château-Gaillard, à côté d'Ambérieu, un service de plus en plus demandé.
Et tout de suite, c'est toute l'actu en bref.
Bourg en bref.
Le premier budget participatif de la ville de Bourg-en-Bresse est lancé.
Depuis le 28 octobre, vous pouvez proposer vos idées pour améliorer la vie des Burgiennes et des Burgiens. Le budget total est de 400 000 euros et chaque idée retenue aura maximum 80 000 euros de budget. Pour la mairie, c'est un autre dispositif qui permet de mettre en avant la démocratie locale. Fabrice Canet, adjoint à la mairie de Bourg-en-Bresse, est délégué à la jeunesse et à la démocratie locale.
Pourquoi avoir créé un budget participatif en plus des conseillers citoyens?
Les conseillers citoyens ont leur rôle, c'est un outil de démocratie locale parmi d'autres, qui avaient eux une enveloppe dédiée. Et là, le budget participatif, l'idée c'est d'avoir une enveloppe plus importante et dédiée à l'ensemble des habitants de Bourg-en-Bresse. C'est un bloc de plus dans notre politique en direction des citoyens et de la participation des citoyens, avec un bloc important puisque c'est l'occasion à ce que ce soit là des habitants à titre individuel ou collectif qui proposent des idées et qui les soumettent à l'avis des Burgiens et des Burgiennes.
Jusqu'au 31 décembre, vous pouvez déposer vos idées. Début 2022, un comité de suivi va étudier toutes ces idées. Et il est composé de 4 élus, de 6 représentants des conseils citoyens, 2 techniciens de la ville, d'un membre de l'AGLCA, le Centre Ressources pour la Vie Associative, et d'un membre de la MRJC, le Mouvement Rural des Jeunesses Chrétiennes. Ce comité va sélectionner les projets qui répondent aux conditions de la mairie.
Il y a tout un ensemble de critères. Il faut que ça relève des compétences de la ville. Il faut que ça soit des idées qui relèvent du vivre ensemble, de la transition écologique. Ça doit relever de l'investissement dans l'espace public de la ville. Après, il peut y avoir une clé d'entrée sociale, culturelle, environnementale, donc libre cours à l'imagination des Burgiennes et des Burgiens. Ça peut être des aménagements urbains type équipement sportif en libre service. Ça peut être des exemples culturels, mais toujours par le biais de l'investissement et qui s'adresse à l'ensemble des habitants avec la notion d'intérêt général.
Fabrice Canet veut mettre en avant la transparence dans la sélection des idées par le comité.
Je pense qu'on doit la transparence sur ce genre de dispositif. La démocratie, si on veut que ça fonctionne, notre dispositif, c'est un élément essentiel. Mais si une idée ne passe pas le comité de suivi parce que sur un espace public, il y a un projet de la ville et que ça serait dommage d'investir sur une idée d'un habitant à un instant T, alors que quelques semaines ou quelques mois après, il y a un projet de la ville, il faut expliquer pourquoi. Toutes les idées qui seront retenues par le comité de suivi ou pas feront l'objet d'une explication aux habitants. Donc en plus, je trouve que ce dispositif a la vertu d'expliquer aux habitants aussi le mode de fonctionnement d'une collectivité, les contraintes financières, hein, puisqu'on a quand même une enveloppe de 400 000 euros, mais des projets qui ne doivent pas dépasser les 80 000 euros. Donc voilà, je trouve que ça a aussi une vertu pédagogique en direction des Burgiens sur le fonctionnement de la ville, les contraintes techniques, les contraintes financières, mais aussi le champ des possibles reste large malgré tout ça.
En mai, les idées sélectionnées par le comité seront soumises au grand public. Les Burgiens et les Burgiennes voteront alors pour leurs 3 projets favoris et seront sélectionnés autant de projets que peut contenir le budget total de 400 000 euros. En attendant le vote, si vous avez des idées pour améliorer la vie des habitants de Bourg-en-Bresse, vous pouvez les soumettre via la plateforme en ligne budgetparticipatif.bourg-en-bresse.fr ou encore à la mairie. Les mercredis 17 novembre et 15 décembre entre 13h30 et 17h ou le samedi 4 décembre de 9h30 à 11h30. Il suffit d'avoir plus de 16 ans et de vivre à Bourg-en-Bresse.
Un nouveau Facebook Live avec Jean-François Debat.
C'est le jeudi 4 novembre de 18h à 19h sur la page Facebook de Grand Bourg Agglomération. Le maire de Bourg et président de l'Aglo répondra à vos questions. Vous pouvez les envoyer en direct ou avant via un formulaire à remplir. Il est aussi sur la page Facebook Grand Bourg Agglomération.
Salah Hamouri menaçait d'être expulsé de Jérusalem.
Un rassemblement est organisé ce vendredi 5 novembre en soutien à l'avocat franco-palestinien. Sa mère est originaire de Bourg-en-Bresse. Et c'est un nouveau coup dur pour Salah Hamouri qui a déjà été menacé d'expulsion et emprisonné par le gouvernement israélien. La marche partira à 17h30 de l'hôtel de ville en direction de la préfecture.
Églantine en stage à la radio est avec nous en studio. Bonjour Églantine.
Bonjour.
La fête foraine revient à Bourg-en-Bresse.
Annulée en 2020, la fête de la Saint-Martin s'installe début novembre au champ de foire. Elle sera ouverte tous les jours, week-end et jours fériés inclus, à partir de 14h et jusqu'en soirée. La Saint-Martin à Bourg-en-Bresse, c'est du 6 au 21 novembre.
Merci Églantine. Hommage en chanson à Marie Rouxel.
Co-présidente de Radio B et d'Un Québec, elle a été la directrice adjointe de la GLCA, le Centre Ressources pour la Vie Associative, de 1989 à 2010. Marie Rouxel a aussi lancé un jukebox vivant à Bourg-en-Bresse. L'idée, une vente aux enchères de chansons et aux multiples interprètes. Le jukebox sera recréé le temps d'une soirée. C'est ce samedi 6 novembre à 20h30 à la Tannerie. Marie Rouxel est décédée en mai dernier.
L'invité de Radio B.
Jean-Marie Gomas, médecin retraité qui exerçait dans un service de soins palliatifs, était l'invité de l'association de soutien aux soins palliatifs de l'Ain, mi-octobre. Nous l'avons rencontré.
Oui, bonjour, je suis le docteur Gomas. Je suis spécialiste de gériatrie, de traitement de la douleur et de soins palliatifs. Ça fait 2 ans, 3 ans que je ne vois plus de malades, mais je continue à être enseignant universitaire et expert sur ces questions-là.
C'est quoi les soins palliatifs ?
Ah, les soins palliatifs, effectivement, la question mérite d'être posée parce que beaucoup de gens confondent avec plein de choses. Les soins palliatifs, c'est la philosophie du soin qui s'occupe du patient en acceptant sa finitude. C'est pour ça que les soins palliatifs s'intéressent aux patients, quel que soit leur âge, quelle que soit leur maladie. Mais c'est vrai que c'est une partie de la médecine qui s'occupe des gens qu'on ne peut plus guérir. Soit parce qu'ils ont une maladie qui va les faire mourir plus tôt que prévu, soit ils arrivent à la fin de leur existence et le grand âge fait qu'un jour ou l'autre, ils seront en fin de vie.
Donc concrètement, ça se présente comment ?
C'est une manière de soigner le malade en acceptant de ne pas faire tous les traitements qui existent parce que beaucoup deviennent inutiles à l'approche de la fin de vie. Et surtout, en s'occupant du patient comme un sujet, en respectant ce qu'il est, en soignant sa douleur, en calmant ses symptômes du mieux qu'on peut. Parce que quand on arrive en fin de vie, le plus important, c'est le relationnel. Je dis souvent, les soins palliatifs, c'est confort, communication. C'est-à-dire, si vous êtes dans le confort optimal, tel que peut le laisser votre corps malade, eh bien, vous pourrez communiquer le mieux possible. Donc, on est dans le sens de la vie jusqu'au bout.
Concrètement, dans votre quotidien, quand vous étiez donc médecin dans un service de soins palliatifs, comment ça se passait ?
C'est un service hospitalier un peu particulier, mais qui correspond à la même éthique du soin. On accueille des patients malades qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur fasse les meilleurs soins possibles compte tenu de leur maladie. Et quand c'est des patients qui souvent arrivent en fin de vie, parce qu'un service de soins palliatifs s'occupe très souvent de malades qui sont proches de leur fin de vie, mais aussi de patients qui sont plus à distance et qu'on prend pendant quelques jours ou quelques semaines pour améliorer le contrôle de la douleur ou des symptômes avant qu'ils repartent chez eux ou dans d'autres services. Donc c'est vraiment une priorité à la qualité des soins et à l'écoute du patient. Parce que les patients sont souvent angoissés quand ils sont très malades. Ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on les regarde, qu'on les respecte comme des sujets. Et ça, c'est vraiment un travail absolument passionnant.
Et est-ce que donc, quand vous travaillez, les patients, c'était plus « j'ai envie d'en finir vite » ou ils préféraient être dans un calme et attendre que ça arrive ?
Il y a très peu de patients qui demandent à en finir vite. Là, nous sommes au mois d'octobre. Il y a 2000 personnes qui meurent tous les jours en France d'accidents vasculaires, de cancers, de maladies chroniques, etc. On n'en parle jamais. Il y a une espèce de déni là-dessus. Donc, c'est pour remettre en perspective les chiffres de mortalité du Covid actuel. Et surtout, par exemple, sur ces 2000 malades et tous ceux qui meurent de maladies chroniques, j'en ai soigné des milliers et des milliers jusqu'à la fin de leur jour. Et donc, nous, on prétend, nous, les spécialistes de soins palliatifs, avoir une vraie connaissance de ça. Et bien, il y a très très peu de patients qui demandent à abréger leur existence, s'ils sont bien entourés et calmés. Voilà ce qui fait la différence.
En France, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu où on en est par rapport à la fin de vie, au niveau des lois, notamment avec la loi Claeys-Leonetti ?
Alors, on a fait d'énormes progrès en France ces dernières décennies, puisqu'on a démarré le mouvement des soins palliatifs un peu avec retard par rapport à l'Angleterre ou au Canada, par exemple. Puis on a bien rattrapé ce retard, et nos centres spécialisés n'ont vraiment pas à rougir d'autres réalisations européennes ou canadiennes. Et la législation permet de s'occuper de l'ensemble des patients. C'est-à-dire qu'on a des médicaments qui permettent de calmer la quasi-totalité des douleurs et des symptômes. Et quand le patient arrive en fin de vie et qu'il est dans une situation véritablement insoutenable pour lui, dans ces dernières semaines, la loi Claeys-Leonetti, notamment, a permis d'organiser ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, qui permet à ce moment-là au patient de décéder à son heure, mais sans ressentir les symptômes très difficiles qui émaillent cette période.
Cette sédation profonde, c'est le choix du patient ? Comment ça se passe ?
Alors, la loi prévoit effectivement que ce soit le choix du patient dans une certaine mesure, dans plusieurs conditions prévues par la loi. Alors, bien entendu, les discussions sont infinies parce que, fort heureusement, la loi n'a pas donné des critères mathématiques. La loi reste humaine, d'inspiration humaine et d'application humaine. Donc, oui, il y a bien sûr toujours des discussions. Et puis, quelquefois, la loi a prévu que quand le patient ne peut plus s'exprimer, en grande gériatrie, quand le patient est déjà dans le coma et que son état continue à s'aggraver, ou bien que l'on va arrêter un traitement devenu manifestement inutile, qui ne peut plus guérir le malade, qui ne peut plus l'améliorer, et que l'on sait que l'arrêt de ces traitements va entraîner éventuellement ou certainement une grande douleur ou une grande souffrance, alors on peut aussi, dans ce cas-là, faire une sédation profonde et continue.
Est-ce que vous, en tant que médecin, vous avez eu l'occasion de faire ce choix à un moment où le patient ne pouvait plus parler, vous deviez prendre cette décision ?
Bien sûr, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais surtout, ce qui est important de dire, c'est que nous, les spécialistes de soins palliatifs, on fait ça depuis 30 ans en France. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on faisait déjà ce qu'on appelait à l'époque des sommeils induits, qui n'étaient pas définitifs à l'époque, qui étaient pour des durées transitoires, et qui permettaient justement d'accorder le confort aux patients pour lesquels subsistaient encore des douleurs résiduelles ou des souffrances résiduelles. Alors, d'ailleurs, à propos de souffrance, je voudrais dire quelque chose de très important. Il y a une phrase très malencontreuse dans la loi Claeys-Leonetti. L'article 3 commence par cette phrase « À la demande du malade d'éviter toute souffrance ». Mais ce n'est pas possible. L'humain ne peut pas arriver près de sa fin de vie sans souffrance. D'abord parce que la souffrance existentielle nous occupe tous. Il aurait fallu que le législateur nous écoute un peu plus et dise « À la demande du malade d'éviter toute douleur et de diminuer sa souffrance ». Alors oui, ça c'est vrai, parce qu'il y a des douleurs qu'on peut, dans l'immense majorité des cas, massivement diminuer, voire faire disparaître, mais la souffrance ne peut pas être à zéro. Un humain ne peut pas être à zéro souffrance. Ça, c'est un fantasme de nos sociétés contemporaines, hein, qui perd un petit peu le sens des références là-dessus. Non, notre vie humaine, ne serait-ce qu'au niveau de la souffrance existentielle, va s'approcher de sa fin de vie, parfois dans une certaine paix, heureusement, mais souvent dans une certaine tristesse, voire une certaine révolte. Il y a des fins de vie qui sont tragiques. Et heureusement, donc, le Claeys-Leonetti nous permet de faire dormir ces patients-là pour que leur fin de vie soit paisible.
Vous trouvez que c'est plutôt une bonne avancée, cette loi Claeys-Leonetti ?
Ah oui, la loi Claeys-Leonetti est un formidable travail, à part la maladresse que je viens de citer sur l'article 3. C'est vraiment une loi qui permet de répondre à l'ensemble des exigences. Alors bien sûr, il y a toujours la loi générale ne peut pas résoudre tous les problèmes particuliers. On a encore du travail à faire, notamment sur les maladies neurodégénératives, des gens qui vivent des situations très difficiles pendant des années avec toute leur tête. Là, il y a vraiment un travail à faire. Et à l'autre extrémité du système de santé, il y a un travail à faire sur tous les étapes aussi relationnelles, les gens qui ne communiquent pratiquement plus et qui vivent dans des états extrêmement réduits et minimalistes pendant des années et des années, avec zéro communication verbale, voire zéro communication non-verbale aussi d'ailleurs. Là, on va vraiment avoir un travail à faire avec les tutelles pour essayer de rendre la vie de ces patients et de leurs familles moins difficile pour ces situations qui n'ont pas d'issue.
Ce serait quoi la solution ?
La solution, c'est probablement, mais là, ce n'est pas à moi de le décider, il faut vraiment que ce soit un travail collectif de toute la société, hein, et il y a des tensions là-dessus, bien sûr. Très probablement, il faudrait étendre la limitation à l'arrêt de traitement à des situations très chroniques comme ça, où l'on sait parfaitement qu'il n'y aura aucune amélioration pendant des années, et que, à part l'épuisement des familles une absence de communication, on n'a pas grand-chose d'autre à attendre. Donc là, vraiment, il va falloir travailler là-dessus.
Est-ce que en France, on peut parler d'aide active à mourir ? La sédation profonde, est-ce que c'est ça ou pas ?
Nous sommes vraiment très très tristes que les Canadiens aient adopté cette formulation aide médicale à mourir. C'est un terme, d'ailleurs, ils ont eu le courage cynique de le dire. Ils ont dit qu'ils avaient décidé d'appeler ça comme ça parce que le mot euthanasie était trop violent. Donc voilà, au moins une honnêteté sur les principes et la sémantique. Non, aide médicale à mourir, ça correspond pas à un soin d'abord. Hein. L'euthanasie ou le suicide assisté, qui sont deux choses complètement différentes, ne peuvent pas être appelées aide médicale à mourir en tant que soin. Ce n'est pas un soin de donner la mort. Ce ne sera jamais un soin. Donc ça, c'est vraiment un socle éthique et philosophique très très solide pour nous. Donc l'aide médicale à mourir, il ne faut vraiment pas utiliser ce terme-là. Il faut avoir le courage de dire si on est dans l'euthanasie ou le suicide assisté. Et en France, actuellement, beaucoup de penseurs, beaucoup de spécialistes, beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, pourrait se diriger vers un méthode de suicide assisté pharmacologique comme se passe dans l'état de l'Oregon aux États-Unis, où c'est le patient qui garde sa liberté de raccourcir sa vie lorsqu'il est très malade en absorbant une pilule qui est délivrée par un médecin. Mais le médecin et l'infirmière doivent être absolument écartés de ce geste parce que ce n'est pas un soin. En revanche, la société contemporaine semble très prête à défendre une liberté, une autonomie à tout prix et jusqu'au bout du patient, ce qui au moins rendra le malade acteur de sa propre vie jusqu'au bout et épargnera les soignants dont c'est vraiment pas le métier.
Est-ce que ça, donc que le patient prenne ou pas une pilule donc pour se donner la mort, est-ce que ça c'est dans les discussions en France ou on en est encore loin ?
Alors, il y a quelques personnes qui commencent à travailler là-dessus. Il y a des groupements de réflexion qui travaillent là-dessus. On ne sait pas encore du tout si ça va être repris par le législateur. Ce n'est pas exempt de discussion non plus. Ce qui est très intéressant, c'est redonner la liberté aux malades, et ça plaît beaucoup à notre société contemporaine. On voit ce qui se passe dans l'Oregon. Entre un tiers et la moitié des malades, finalement, ne prennent pas la pilule qui pourrait les faire mourir. Et finalement, trouvent du sens à leur vie jusqu'au bout. Ça correspond exactement à ce que nous, on vit dans les soins palliatifs. Beaucoup de malades disent, avant d'être très malade, je ne veux pas être altéré, je ne veux pas être dégradé, je ne vivrai pas ça jusqu'au bout. Et puis finalement, quand on est malade, on recule nos limites, on avance dans l'humanité. Et l'immense majorité des patients dont je me suis occupé nous renvoient le message que ça a eu du sens jusqu'au bout, même si ce n'est pas facile.
Et donc le titre de la conférence de ce soir, c'est « Maîtriser sa vie jusqu'au bout », c'est une question. En résumé, jusqu'où pouvons-nous maîtriser notre vie ?
Ça restera une histoire particulière, toujours, notre liberté, notre ultime liberté. Mon expérience de 35 ans auprès de ces patients-là, de milliers de malades accompagnés, me montre que nos désirs de maîtriser sont des désirs de bien portant et que plus on est malade, plus on est dans l'acceptation et plus le chemin, c'est une autre allure de la vie, disait Canguilhem. Cette autre allure, finalement, dévoile des limites qu'on ne soupçonnait pas. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas exceptionnels sur lesquels il va falloir continuer à travailler, mais l'immense majorité des patients, encore bien portants, qui nous écoutent, qui ne s'angoissent pas. Quand ils seront malades, ils auront du sens jusqu'au bout et nous serons là pour les accompagner.
C'était le docteur Gomas, médecin en soins palliatifs récemment retraité. Il était l'invité de l'association de soutien aux soins palliatifs, une association où les bénévoles accompagnent les personnes malades dans les hôpitaux ou encore à domicile. Ils apportent aussi un soutien aux familles. Si vous souhaitez devenir bénévole ou avoir plus de renseignements sur cet accompagnement, vous pouvez contacter l'association de soutien aux soins palliatifs sur le site assp-soins-palliatifs.org.
Vous vous sentez comment là avant l'arrivée de monsieur le député ?
On s'échauffe tranquille, respirez bien.
En reportage avec Radio B.
En France, la moitié des foyers possèdent au moins un animal de compagnie. Alors quand vient la fin, la question se pose, faut-il l'enterrer, l'incinérer ? Comment faire le deuil de nos animaux ? Des pompes funèbres pour animaux, c'est le service proposé par le groupe Veternity, créé il y a déjà 25 ans. Il s'occupe de la crémation des animaux. Et il y a un an, l'entreprise lance sa marque Estima pour le grand public. Elle propose les mêmes services que pour des humains. Avec 15 crématoriums pour animaux, c'est le leader du secteur en France. Et le groupe est même implanté à l'étranger, comme au Canada, aux États-Unis et en Europe. Je suis allée visiter le crématorium pour animaux de Château-Gaillard, juste à côté d'Ambérieu-en-Bugey. Ce funérarium pour animaux est un peu comme celui pour les humains. Une entrée chaleureuse et sur le côté, un promontoire qui présente des urnes funéraires avec des pattes de chat dessus, ou encore des pendentifs pour garder sur soi les cendres du défunt. Ici, un animal n'est pas juste un animal, c'est un membre de la famille. Et Séverine, l'hôtesse funéraire, le sait bien. Elle s'apprête à accueillir une propriétaire qui vient pour la crémation de son chat. Qu'est-ce qu'elle avait demandé, cette dame ?
Donc, elle avait demandé un service funéraire avec crémation privée. Donc, qui est un service qui nécessite une organisation. Donc, on convient d'un rendez-vous et on accueille les familles. C'est un service, une cérémonie qui pourrait être comparée à celle en humaine, avec un temps de recueil dans la salle, dans une salle des adieux. Ils ont donc accès à un salon privé équipé d'un écran qui peut leur permettre de visualiser jusqu'à l'introduction aux cellules s'ils le souhaitent. Et on leur restitue l'intégralité des cendres le jour même, le jour de leur venue. Ce sont des étapes difficiles parce que c'est souvent très riche en émotions, bouleversées, dans le chagrin, dans la tristesse. Donc c'est à nous aussi de trouver notre place, les accompagner au mieux. Mais ils repartent avec l'urne de leur animal le jour du rendez-vous.
Audrey est la propriétaire de Nelson, son Maine Coon décédé à l'âge de 4 ans. Elle vient d'arriver, elle est venue d'Issoire et a fait plus de 200 km pour cette cérémonie.
Aujourd'hui, je suis venue ici pour accompagner mon chat jusqu'à la fin, puisque c'était, c'est comme ça, hein, on s'occupe d'une bête du début à la fin, et puis c'est même plus une bête en fait, ça fait partie de la famille. Donc voilà, après j'ai fait le choix de moi-même transporter le corps, parce que c'est par respect pour lui, c'est pas facile, mais ça reste mon bébé jusqu'à la fin. Il y a un peu de route à faire, mais on prend une journée de congé, et puis la mort fait partie de la vie, donc c'est normal de venir ici jusqu'à la fin. Et après, pourquoi je fais le choix de faire incinérer mon chat, c'est tout simplement parce que on est aussi dans une société où on est amené à chaque fois à déménager. On sait pas trop où, voilà, et ça me tenait à cœur de pouvoir rester avec mon animal et de l'accompagner jusqu'à la fin.
Et comment vous avez connu ce service ?
Malheureusement, le fait de devoir accompagner un autre bébé, il y a des années en arrière, il y a 5 ans en arrière, et même cas de figure, j'étais pas propriétaire, je savais pas, amener encore à beaucoup déménager, donc j'avais trouvé cette solution-là pour mon labrador. Et du coup, en allant vers mon vétérinaire, effectivement, qui m'a dit que ce type de service pouvait exister. Voilà, le choix était absolument naturel et je pouvais pas faire autrement.
Séverine a maintenant récupéré le corps du chat et elle va dans une arrière-salle pour le préparer à la cérémonie.
Quand on accueille des animaux qu'on a déjà récupérés de la clinique vétérinaire, on prend soin de faire une toilette 24 heures avant la venue des propriétaires. Et puis parfois, ils ont le souhait de venir eux directement avec leur animal, ce qui est le cas de Madame Grondin. Dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas procéder à la toilette que l'on fait normalement avant. Donc on essaye de les disposer pour le temps de recueil.
Donc là, vous essayez de le rendre le plus présentable possible pour que les gens disent au revoir.
On ne peut pas, exactement. Il faut quand même que l'image reste la plus positive possible et la disposition, c'est important.
Donc là, on est où ?
On est dans la salle de recueil. Donc c'est une salle où les propriétaires passent un petit temps, environ 20-25 minutes, auprès de leur animal, juste avant l'introduction en cellule et l'accompagnement dans les salons. Je vous ouvre, messieurs. Je vous en prie. On va prendre quelques instants, messieurs, dames, juste pour vous informer de ce que vous avez à disposition. Et ensuite, on disposera. Donc, Si vous sentez que vous avez besoin de vous rapprocher de Nelson, de venir le toucher, vous pencher sur lui, bien sûr, vous pouvez le faire. J'ai laissé la petite couverture dans laquelle vous me l'avez confiée. Si vous souhaitez la récupérer, vous pouvez, bien sûr. Derrière vous, messieurs, dames, vous avez à disposition des petits papiers stylos qui permettent d'écrire un ou plusieurs messages. Si vous sentez que vous avez besoin de le faire, n'hésitez pas, laissez vos messages auprès de lui. Sachez que tout ce que vous laissez auprès de lui, ça reste avec lui, ça l'accompagne et c'est formellement respecté. Si vous aviez envie, besoin de se souvenir également, vous disposez des sachets et ciseaux à disposition pour récupérer quelques poils. Il a un très beau poil, Nelson. Par respect pour ce moment, on va disposer. Je laisse la porte fermée et je reste à disposition si besoin.
Merci.
À tout à l'heure, monsieur.
Et donc, vous, personnellement, c'est compliqué aussi émotionnellement. Comment vous arrivez à gérer ces émotions à chaque fois?
Alors, on essaye de les gérer au mieux. parce qu'effectivement, on essaye d'avoir cette position professionnelle. Mais encore une fois, on travaille avec les émotions. Et les émotions, elles ne sont pas toujours faciles à gérer. Et il nous arrive d'être emmenés dans les émotions de certaines familles qui viennent en reflet avec nos souvenirs, notre histoire. Et c'est parfois compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est tous les jours. Donc on accueille beaucoup de familles, de personnes. Et il faut essayer de trouver des exutoires. Il faut essayer de faire confiance, de savoir passer le relais aussi à certaines collègues. Et surtout, je dirais, de trouver notre place à chaque fois auprès de chaque personne et pour autant être présent, apporter, être dans l'empathie et ça, c'est parfois difficile.
Ça fait 4 ans que Séverine est hôtesse funéraire. Elle doit jongler entre l'humain et l'organisation avec l'agent de crémation. Le four doit être à une température très élevée et constante pour que tout se déroule bien. Une fois que les propriétaires ont dit adieu à leur animal, elle va prévenir l'agent de crémation et lui donner le chat. Il a été placé dans un petit cercueil en carton. Elle retourne ensuite auprès des propriétaires.
Je vais prendre le temps de vous expliquer pour l'accompagnement pour la suite. Mmh. Et après, je vais ressortir du salon pour aller confier Nelson à Rudy. Rudy, c'est mon collègue qui, lui, est agent de crémation. Donc, c'est Rudy qui va accompagner Nelson sur toute cette partie crémation, de l'introduction dans la cellule, sur la surveillance de la crémation, jusqu'à ce qu'elle se termine. Vous êtes dans le salon, face à vous, vous avez cet écran. Je ne vais pas l'allumer tout de suite, je vais simplement vous expliquer déjà ce que vous verrez si j'allume l'écran. Et vous me direz si vous souhaitez qu'on l'allume. En allumant l'écran, donc vous allez avoir la vue sur la porte de la cellule. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on va disposer Nelson dans un petit cercueil en carton, que Rudy va prendre soin d'approcher jusqu'à la porte de la cellule. Volontairement, il laisse ce cercueil ouvert. Toujours face à vous, à l'écran, il va replacer le couvercle du cercueil et il fera progresser le cercueil dans le fond de la cellule. Une fois qu'il a fini cette introduction, il referme la porte rapidement, bien sûr. Au niveau du temps de crémation, alors, on n'est pas encore très précis à la minute, mais on sait par habitude qu'il faudra compter environ au moins une bonne heure, entre 1h15 et peut-être 1h30 de temps de crémation. Pour information, on a un petit jardin du souvenir juste là sur le côté du bâtiment. Il y a 2 bancs à l'extérieur. Si vous avez envie également d'en disposer, vous pouvez y aller sans souci.
Audrey et son compagnon décident de prendre un peu l'air en attendant la fin de la crémation et la récupération des cendres. D'avoir donc vécu toute cette cérémonie, ça vous fait quoi? Est-ce que ça vous permet d'aller mieux dans votre deuil?
D'aller mieux, non, mais enfin voilà, ça permet juste d'être auprès de lui jusqu'au bout. Après, aller mieux, je peux pas dire que j'aille mieux, mais je suis à ma place en fait. C'est mon rôle de maman chat, tout comme c'était mon rôle de maman chien, de dire bah oui, la mort fait partie de la vie et je suis là jusqu'au bout, même si ça me fait mal, parce que il y a la perte physique, mais voilà, je suis là. L'amour, voilà, jusqu'au bout.
Vous trouvez ça important d'avoir ce genre de service qui vous aide à aller dans ces moments difficiles?
C'est important, effectivement, de pouvoir justement trouver une structure qui puisse nous permettre d'accompagner, voilà, comme je disais, cet animal qui fait partie intégrante de la famille, en fait.
Une fois que vous aurez eu les cendres, vous allez en faire quoi ?
Mon chat va rester, du coup, avec nous, dans la maison, et il va rejoindre sa grande sœur qu'il n'a pas connue, donc mon chien. Et voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure à mon compagnon, ce soir, on rentre tous ensemble à la maison, quoi.
À Estima Château Gaillard, il y a en moyenne 60 cérémonies funéraires pour les animaux par mois. Ce service se fait beaucoup en partenariat avec des vétérinaires et il existe aussi une filiale spécialisée pour les chevaux. Jérémy Miquel est le nouveau directeur du site d'Estima à Château Gaillard.
Donc Estima, c'est des pompes funèbres animalières. On est 15 crématoriums en France. On est une société française créée il y a 25 ans par des vétérinaires pour des vétérinaires. Et aujourd'hui, on a trois offres destinées aux particuliers, qui sont des crémations référence. On a aussi des crémations plurielles et aussi des services funéraires où on accueille les propriétaires directement sur place pour faire des obsèques, pour accompagner le deuil de leur animal.
Et quels sont les services les plus demandés ?
Le service le plus demandé, c'est la crémation plurielle, donc ce qui est collective. Ensuite, on a vraiment un axe de plus en plus demandé sur la crémation référence. Donc là, c'est la crémation individuelle où on peut récupérer les cendres individuelles de son animal. Et c'est vrai qu'il y a une plus forte tendance sur le service funéraire pour vraiment accompagner, comme je le disais tout à l'heure, les propriétaires dans les obsèques et dans le deuil animal.
Et donc, quel type d'animaux peuvent venir ici pour une crémation ?
On est en mesure d'accueillir en fait tout ce qu'on appelle les NAC. Donc c'est les nouveaux animaux de compagnie, où on peut retrouver la liste très facilement sur Internet. Mais c'est vrai qu'on accueille principalement des chiens, chats, et après on a des animaux aussi comme des serpents, des oiseaux. On accueille tout type d'animal qui figure dans cette liste-là.
Combien coûte en moyenne une crémation, par exemple, pour un chat ?
Alors pour un chat, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, on a trois offres, que ce soit chat, chien. Mais là, spécifiquement pour un chat, donc on a une crémation plurielle où là, la restitution des cendres n'est pas possible et c'est 61 euros. Ensuite, on a la crémation référence, ce qui permet d'avoir la restitution des cendres de son animal de manière individuelle. Là, c'est 176 euros. Et ensuite, on a la crémation privée, où là, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment une cérémonie funéraire digne d'un obsèque, dans des salons privés, avec recueil auprès de son animal, récupération des cendres, bien évidemment. Et là, on est à 290 euros.
Donc, si notre animal meurt, quelles sont les possibilités ?
Alors, si votre animal décède, du coup, vous pouvez faire appel à votre vétérinaire, déjà, en premier lieu. On vous invite grandement à passer par votre vétérinaire. Et ensuite, sinon, vous pouvez tout à fait nous contacter par téléphone. Et là, on a un service aussi qui est dédié au service de prise en charge à domicile. Donc, on est à même de venir récupérer nous-mêmes votre animal chez vous, à votre domicile, pour qu'on s'en occupe, ce qui est très apprécié des personnes âgées qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui n'ont pas de possibilité de se déplacer ou parfois leur animal pèse un certain poids. Et nous, on a nos agents en interne qui sont capables de passer et récupérer directement l'animal. Et après, vous pouvez aussi passer en agence. On a une agence à côté de Lyon. Vous pouvez passer directement aussi en agence, nous le déposer. Mais encore une fois, ce qu'on vous recommande le plus, c'est de passer directement par votre vétérinaire.
Et pour rappel, il est interdit de jeter le corps d'un animal dans les ordures ou ailleurs. Et pour enterrer le corps, c'est encore toléré tant que c'est dans votre jardin. Récemment, un député La République En Marche a indiqué qu'il voulait déposer une proposition de loi pour donner la possibilité aux propriétaires d'être enterrés avec leur animal. En attendant, si vous voulez plus d'informations sur les services que propose Estima, vous pouvez aller sur leur site internet www.estima.fr.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Églantine en stage à la radio cette semaine. Et merci à vous pour votre écoute.
Et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90FM, une émission spéciale pour le mois de l'économie sociale et solidaire. En attendant, passez une bonne semaine avec Radio B.
Les enseignants sont réduits à des opérateurs techniques sur une chaîne de montage, ni plus ni moins.
On n'a pas assez pour joindre les fins de mois. Donc heureusement qu'il y a des associations comme ça.
C'est une chance de pouvoir être accepté dans une telle clinique.
L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'autonomie des cyclistes.
C'est relaxant de Faire du poney ?
On se sent un peu délaissé, démuni et grosse perte de motivation de la part de tous les étudiants en général.
C'est un challenge que je m'offre ici, dans le monde carcéral. Et une chance, surtout.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombarté et Audrey Radondi.